Max Urdebourg, bonjour. Vous publiez « L'homme qui murmurait à l'oreille des gorilles ». Comment en êtes-vous arrivé à consacrer votre vie à la préservation de ces grands singes ?
C'était pas prévu dès le départ. J'ai fait juste un... À l'époque, j'étais pigiste, enfin...
Photographe ?
Oui, voilà, photographe freelance. Et j'avais réussi à convaincre Science et Avenir à l'époque de faire un reportage sur la gestion durable des forêts tropicales en Afrique. Et comme je connaissais un peu le Gabon, ben voilà, j'ai proposé une société forestière qui a accepté. Et je suis parti faire ce reportage. Et en faisant ce reportage, j'ai croisé voilà, des gorilles qui traversaient la piste. Et ça m'a vraiment surpris et troublé et, voilà, et ému même. À partir de là, j'ai proposé un projet.
Vous avez fait en sorte voilà, de pouvoir retourner sur place.
Voilà. Donc j'ai proposé un projet aux forestiers qui, à l'époque, n'étaient pas très ouverts. Mais comme je suis tombé sur un vieux forestier à l'ancienne et on a conclu une sorte de pacte sur un vrai travail de fond et ça a démarré comme ça. Une première mission, une deuxième et puis après il y en a eu une vingtaine en tout avec des soutiens un peu scientifiques mais souvent seul parce que comme j'avais très peu de moyens, donc du coup je me retrouvais seul en forêt et bon c'est pas plus mal pour apprendre et donc voilà.
En quoi consistait votre projet ?
Le projet, c'était de voir avec les forestiers comment vivaient ces gorilles, entre des villages, des tronçonneuses, voir s'ils s'adaptaient. Voilà. Donc l'idée, c'était déjà d'en approcher, parce que tout le monde les voyait, les croisait, mais personne ne les approchait de près. C'est assez compliqué, surtout cette espèce de gorille qui est assez sauvage, on va dire. Et donc voilà, c'était déjà savoir où ils sont, comment ils vivent, et s'ils ont des zones voilà, à privilégier et à protéger encore plus que d'habitude. Quoi.
Et ce dont vous vous rendez compte au début, c'est que finalement, les villageois ne connaissent pas forcément si bien que ça les gorilles qui vivent à côté.
Ah, ils les connaissent très bien, mais d'une façon assez brutale. Enfin bon, c'est souvent, bon, ils vont à la chasse, bien sûr, pour se nourrir, et ils rencontrent les gorilles. Alors quand on rencontre un gorille, un dos argenté, une famille, le dos argenté fait très peur. Hein. Donc il va charger, il va crier. Sans vraiment d'agressivité quand on les connaît bien. Donc du coup, le rapport avec les villageois, c'est un rapport de peur, souvent. Donc du coup, moi, j'arrivais avec mes images et je les projetais dans les écoles, aux chefs de village, et pour essayer d'expliquer un peu déjà mon travail, me présenter, ce qui est très important, et comment dire, les inclure dans tout ce que je faisais.
Voilà. C'est ça, une partie de votre travail, c'était de leur expliquer que les gorilles ne sont pas forcément une menace, mais aussi une chance.
Voilà, exactement une chance. Alors bon, on parle toujours des projets d'écotouristes parce que ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a énormément, entre guillemets, d'Européens, d'Occidentaux qui sont prêts à payer très cher pour les voir. Et donc, bon, on parlait un peu de ça avec les chefs de village tout en étant très lucide sur la complexité de monter des projets d'écotourisme. Mais bon, ça, on échangeait beaucoup. Eux, bien sûr, les villageois m'apprenaient comment déjà me diriger en forêt parce que j'avais énormément peur de me perdre au départ. Je me suis déjà perdu quelques fois, mais donc du coup, apprendre les raccourcis. Donc, ça a été vraiment un travail en commun.
Vous avez donc appris à vous repérer dans la forêt et à observer les gorilles. Vous dites dans le livre que vous les sentiez plus que vous ne les voyiez.
Ah oui, en forêt, enfin les odeurs prennent une importance très forte. En forêt, on voit pas au départ. Quand on arrive, moi, au début, les premiers temps, je voyais rien. Et il faut du temps pour voir. Par contre, l'odeur arrive tout de suite. Et quand on arrive à analyser les odeurs, eh ben on a gagné quelque part parce qu'on peut approcher doucement et là, du coup, voir ou apercevoir des choses très belles. Quoi.
Vous avez souvent eu peur ?
Oui, souvent. Oui, je dois dire que j'ai eu assez peur. Mais bon, les premières peurs, c'est vrai que la première charge fait tellement peur, c'est une sorte de test. Hein. Soit vous mettez plus les pieds en forêt, ou soit voilà, vous dominez, vous apprenez. Voilà. Mais j'ai eu très peur, oui. Et de moins en moins. Après, c'est une peur maîtrisée. Quoi. Mais franchement, les seules grosses peurs, c'est quand on entend des voix humaines alors qu'on ne devrait pas entendre dans des zones perdues.
C'est et ça, là, c'est la peur des braconniers.
Voilà, c'est la peur des braconniers, se dire, bon, bah, c'est sûr que si on tombe sur une bande de méchants, là, bon, voilà, c'est eux les dangers.
Pour repérer les nids de gorilles ou pour les observer, les filmer, vous dites que vous avez une façon de communiquer avec eux. Ça, c'est dans les gestes ou les sons que vous émettez ?
Plus qu'une façon de communiquer, c'est déjà comprendre la forêt et comment ils se déplacent en forêt. Enfin, mon idée, c'était ça. Et en fin de compte, ils sont assez routiniers. Ils ont des endroits où ils viennent manger. Alors moi, j'ai ciblé essentiellement des clairières humides où ils viennent manger certaines herbes. Et là, moi, je m'embêtais plus. En gros, je leur donnais rendez-vous, si on peut dire, dans ces zones-là. Je mettais mon hamac dans un arbre et je pouvais les observer. Ils savaient que j'étais là, hein, de toute façon, mais que j'étais inoffensif. Et donc, je pouvais les observer tranquillement de mon arbre et les retrouver au sol sur le chemin du retour. Mais ça, j'ai jamais, comment dire, habitué les gorilles. Hein. Le but, c'est de se croiser, et voilà.
Vous avez travaillé donc pour la CFT, la Compagnie des forêts tropicales, même dans un endroit où officiellement c'est une exploitation forestière a priori raisonnée. Les dégâts sont énormes chaque fois qu'on abat un arbre.
Moi, les forestiers, ils apportent du travail, ça c'est indéniable, hein, dans les régions où vraiment les gens ont besoin de manger et de vivre. Bon, mis à part ça, de toute façon, exploiter la forêt, ça la détruit. On ne peut pas dire qu'après le passage, même si c'est un forestier respectueux, que les gorilles vont mieux, les éléphants vont mieux, enfin, bon, ça moi j'y crois pas, hein, personnellement. Mais par contre, bon, c'est un outil très important pour le développement de certaines régions. Ça, on ne peut pas le nier. Et ça fait vivre des familles entières, l'exploitation forestière.
Et quand l'exploitation forestière n'est pas raisonnée, là, vous décrivez des coulées de boue qui emportent tout.
Alors oui, quand ce n'est pas raisonné, dans ces cas-là, on coupe sans se poser la question du lendemain, parce que la société forestière avec laquelle j'ai collaboré, elle réfléchissait à maintenir aussi son bois pour les générations futures, ce qui est intelligent. Les autres, non. C'est après moi le déluge, quoi. Donc voilà. Non, c'est une catastrophe, ça, c'est certain, pour la fin.
Entre votre tout premier séjour en 2010 et le dernier, qu'est-ce qui a changé?
Une forme de... moi, j'ai arrêté de travailler chez les forestiers. Donc là, ça s'est arrêté il y a un an à peu près. Et c'est une sorte de pas de fatigue, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Après, à eux, aux gens que j'ai croisés, de faire plus, parce qu'il faut toujours faire mieux.
Hein. Pourquoi vous avez arrêté de travailler avec eux?
Parce que je crois pas à la gestion durable de la forêt tropicale. Je crois à une autre forêt après, ça c'est autre chose. Que la forêt se transforme, que ça soit une forêt comme les nôtres en gros, hein. Pourquoi pas? Mais bon, moi, la forêt que j'aime, c'est une forêt riche et qui foisonne et sans
piste. Vous sentiez peut-être un peu manipulé, c'était du greenwashing.
Bien sûr, il faut faire attention à ça. Mais moi, j'ai toujours financièrement été indépendant. Donc, ils m'ont jamais payé un billet d'avion, ils m'ont jamais payé moi-même. Donc ils avaient aussi, c'était donnant-donnant. Moi, je leur apporte une image quand même qui est correcte parce qu'ils font plein d'efforts, hein, y a pas de problème. Et puis moi, j'avais une liberté totale sur le terrain, ce qui est super.
On sent une tristesse immense, une rage également, devant un certain gâchis à la fin de votre livre quand même, non? Vous n'avez pas d'amertume?
Le seul gâchis, c'est que c'est quand même l'argent qui maîtrise. Parce qu'on a beau à un moment donné faire tout un tas de réunions, de machins, discuter des éléphants, des gorilles, mais au bout du compte, ce qui va décider, ça va être l'argent et les profits. Et c'est pas les seuls, hein, le monde tourne comme ça. Et à un moment donné, on se bute à un mur, de toute façon. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça, un peu si je peux dire. Hein. Mais je regrette rien. Non.
Après avoir passé autant d'années à observer les gorilles de près, vous pouvez maintenant vivre sans les voir régulièrement?
Ils sont dans ma tête en permanence. Là, je suis à Paris, j'y pense à la forêt régulièrement. Ça, elle m'accompagne tout le temps.
Max Urdebourg, merci. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme qui murmure à l'oreille des gorilles, paru aux éditions du Rocher.